Introduction. Les batailles décisives de la Seconde Guerre mondiale sont au nombre d'une quinzaine, parmi lesquelles on compte Sedan, Dunkerque, Moscou, El Alamein, Tunis, Midway, Guadalcanal, Kursk, ainsi que les grands affrontements de Normandie et des Ardennes. Pourtant, Stalingrad reste à bien des égards la reine des batailles. Par la durée et l'intensité des combats, le nombre d'hommes engagés et perdus, l'importance des enjeux stratégiques et l'exceptionnelle valeur symbolique de son dénouement. L'affrontement homérique de deux dictatures entre Don et Volga représente un tournant décisif dans l'évolution de la guerre en Europe. 70 ans plus tard, il est passionnant d'en suivre les péripéties au triple niveau des chefs suprêmes, des commandants d'armée et des soldats sur le terrain. Comme c'est souvent le cas dans l'histoire, l'ancienne Tsaritsyn, déjà très disputée lors de la guerre civile, n'était pas vouée à redevenir un champ de bataille 22 ans plus tard. C'est une suite de hasards, de rapports de force et d'erreurs de calcul qui a provoqué la concentration progressive de deux immenses armées le long des rives de la Volga, autour et à l'intérieur d'une ville dont la valeur militaire était des plus réduites. C'est aussi l'entêtement de deux dictateurs et la discipline de fer qu'ils ont fait régner parmi leurs troupes qui ont prolongé pendant 5 mois ce face-à-face meurtrier, dont l'intensité dépasse souvent l'imagination. Les conditions climatiques, les possibilités d'approvisionnement, les exploits du renseignement, l'influence de la propagande, les ruses du camouflage, l'évolution des armements aériens et terrestres, la détermination des chefs, le poids de la terreur, et pour finir, l'extraordinaire capacité de résistance des hommes ont façonné ce sanglant abcès de fixation, situé à mi-chemin du centre névralgique de Moscou et des champs pétrolifères du Caucase. Une fois résorbé, il marquera définitivement les limites de l'avance allemande en URSS. Chapitre 1. Face à face. L'enlisement. Sur le front de l'Est, au printemps de 1942, les positions occupées par la Wehrmacht et l'armée rouge sont l'aboutissement d'un double échec. Celui d'Hitler, car le Führer, chancelier du Reich et chef de l'OKW, Oberkommando der Wehrmacht, ou commandement suprême des forces armées, misait sur une guerre éclair pour écraser l'URSS, avant de se retourner contre des Britanniques restés invaincus. En 5 mois d'une campagne sans précédent dans l'histoire du monde, ses Panzer et sa Luftwaffe ont dévasté l'armée soviétique, mis 3,5 millions de ses soldats hors de combat et atteint les abords de Leningrad, Moscou et Rostov à l'automne de 1941. Mais après cela, l'implacable mécanique nazie a commencé à se gripper. Au seuil de l'hiver, la pluie et la boue, puis la neige et le gel, ont paralysé des armées épuisées par 20 semaines de campagne et parvenues à l'extrême limite de leur ligne d'approvisionnement. Dès lors, les divisions du groupe d'armée nord ont dû reculer au sud-est de Leningrad pour se retrancher derrière le Volkhov. Celles du groupe d'armée sud, ayant pris Rostov le 21 novembre 1941, ont été forcées de l'évacuer 8 jours plus tard pour se regrouper derrière le Mius. Enfin, les unités de tête du groupe d'armée centre, parvenues à moins de 20 km de Moscou, ont été arrêtées par le gel, le manque de carburant et le déluge de feu de l'artillerie soviétique. Le 6 décembre, une contre-offensive soviétique commandée par le général Joukov les a forcées à une retraite précipitée qui ne s'est arrêtée que 3 semaines plus tard, le long d'une ligne de défense sinueuse allant du lac Ilmen jusqu'au cours supérieur du Don, en passant par les approches de Staritsa, Borovsk, Istra, Kalouga et Orel. Mais après cela, Hitler a interdit toute nouvelle retraite et ordonné à ses généraux de combattre sans esprit de recul. Les armées allemandes, restées très puissantes, se sont donc repliées sur les villes et ont formé des hérissons autour des villages pour constituer une solide barrière durant les mois d'hiver. À Moscou, le premier secrétaire président du Conseil des ministres, commissaire à la Défense et commandant en chef suprême, Joseph Staline, vient d'échapper au pire. Dans la seconde moitié des années 30, il a fait subir à son armée une purge sans précédent, qu'il a privé de 40 000 officiers expérimentés et laissé fatalement affaiblis. Il a conclu un pacte avec Hitler en 1939, puis est resté aveugle à tous les signes d'une invasion imminente. Après le déclenchement de l'opération Barbarossa, ses ordres interdisant toute retraite et exigeant des contre-offensives insensées ont entraîné l'effarante succession de défaites qui a ouvert aux Allemands la route de Moscou. Mais le 5 janvier 1942, alors que l'armée soviétique réussissait miraculeusement à repousser les Allemands loin de la capitale, le chef d'état-major, Chapochnikov, recommandait la plus grande prudence. La contre-attaque limitée du général Joukov avait abouti, mais l'armée rouge n'était pas encore équipée des moyens nécessaires en tanks, artillerie et forces aériennes pour envisager une offensive d'envergure. Au Kremlin, pourtant, l'état-major ne joue qu'un rôle de conseiller et d'instance de planification. Les véritables centres de décision, ce sont le Comité d'État à la Défense, GKO, le Grand Quartier Général, Stavka, et le Politburo. Mais ces trois organismes comptent de nombreux figurants et un seul décideur, Joseph Staline en personne. Or, le Vierkovni, le commandant suprême, dictateur habillé en militaire, a imposé à la Stavka dès le 6 janvier 1942 une stratégie simple et brutale. Les Allemands sont déstabilisés après leur défaite près de Moscou. Ils sont mal préparés à passer l'hiver. C'est le moment de passer à l'offensive générale. Il y a bien eu quelques timides objections, mais personne ne s'est avisé de le contredire. Et de janvier à avril 1942, l'armée rouge s'est dispersée entre plusieurs offensives pratiquement simultanées sur l'ensemble du front. Par manque de tanks, de camions, de munitions d'artillerie et de couverture aérienne, aucune de ces opérations n'a permis de réaliser des avancées appréciables et toutes ont été affreusement coûteuses en hommes comme en matériel. Ainsi, la stratégie offensive de Staline au printemps de 1942 s'est révélée presque aussi désastreuse que sa stratégie défensive à l'été de 1941. Même encerclés dans les poches de Demiansk et de Vyazma, les soldats de la Wehrmacht, ravitaillés par la Luftwaffe, ont tenu bon jusqu'à la fin du dégel, et l'armée rouge s'est usée en pure perte. Les combats de l'hiver ont laissé subsister des poches allemandes en territoire reconquis par les soviétiques, mais aussi des avancées soviétiques en territoire occupé par les Allemands. Parmi celles-ci, le saillant d'Izium, au sud-est de Kharkov, celui de Bieli, au nord-est de Smolensk, et une partie de la presqu'île de Kertch reliant le Kouban à la Crimée. Les forces en présence. C'est donc un front très tourmenté qui sépare les deux adversaires au printemps de 1942. Depuis le golfe de Finlande jusqu'à la mer d'Azov, les positions se sont figées aux environs de Novgorod, Demiansk, Rjev, Orel, Koursk, Kharkov, Taganrog et Sébastopol. De part et d'autre de cette ligne de front, longue de 3200 km, deux gigantesques armées se font face. La Wehrmacht, avec ses groupes d'armées sud, centre et nord, compte 3,2 millions d'hommes, répartis en 208 divisions et 4 armées blindées. Elle peut encore aligner 2800 chars, principalement de puissants Panzer 3 et 4, ainsi que de redoutables canons autotractés, Sturmgeschütz 3. Ces trois groupes d'armées sont couverts par les Luftflotten 5, 2 et 1, comprenant principalement des chasseurs Messerschmitt 109 et Focke-Wulf 190, des bombardiers Heinkel 111 et Junkers 88, ainsi que des bombardiers en piqué U-87 Stuka. En face, l'armée rouge reconstituée compte près de 4,8 millions d'hommes, répartis en 10 fronts, regroupant 42 armées.